Cube Radio.
Antoine Robitaille.
Il connaît tous les dessous de la politique.
Une entrée privilégiée dans le Parlement.
Là-haut sur la colline. Antoine Robitaille.
Hey, bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, aux actualités de l'histoire, Dave Noël nous décortique une controverse entre les historiens Frédéric Bastien et Alexandre Dumas au sujet de la création du drapeau du Québec et du rôle de René Chaloux, député qui aurait été instrumentalisé dans cette affaire par Maurice Duplessis. Bastien, en s'appuyant sur une source, Antonio Flamand, dit oui. Dumas rejette cette thèse en bloc et Dave Noël nous analyse cette affaire. Mais d'abord, occupons-nous du présent, car il est riche, et accueillons Rémi Nadeau pour notre rencontre quotidienne.
Rémi Nadeau.
Tout a été mauvais, ça a été un spectacle désolant, c'était triste de voir ça.
Antoine Robitaille.
On sait bien, vous voulez faire du nationalisme, mais non, on veut justement contrebalancer cette délocalisation-là politique.
La rencontre.
Un jour, on fera notre débat.
Oui, bien sûr.
Métal sur métal.
C'est le moment de vérité.
La rencontre. Nadeau, Robitaille.
Mais bonjour, Rémi Nadeau.
Bonjour, Antoine.
Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. C'est la rentrée parlementaire, mais il y a un cas, finalement, qui vient d'Ottawa, le cas El Gawabi, qui a pris presque toute la place.
Oui, exactement, parce que finalement, c'est ce qu'on va retenir de la journée. C'est tout ce qui a été dit concernant cette fameuse porte-parole au fédéral en matière de lutte contre l'islamophobie, notamment, et la lutte contre le racisme systémique. Et François Legault est allé assez fort.
Oui.
Mais en même temps, il dit vrai.
Oui.
C'est-à-dire que, selon lui, Justin Trudeau cautionne le mépris à l'égard des Québécois en maintenant en place donc cette Madame El Gawabi qu'il a nommée, Amira El Gawabi. Et même Justin Trudeau, on a comme rajouté, je dirais, aujourd'hui, parce qu'il a dit même qu'il était 100% derrière cette nomination-là. Malgré tous les écrits controversés de Madame El Gawabi.
Donc, il dit que, au fond, il nous dit que le Québec rêve d'une race pure.
Oui,
c'est quand tu dis 100%, là, tous ses propos sont assez controversés à cette dame.
Oui, ben, alors, en tout cas, j'ai vraiment du mal à comprendre, là, comment Monsieur Trudeau, peut avoir ce raisonnement. Mais bref. Donc, M. Legault est allé très fort. On lui a demandé ensuite, mais qu'est-ce que vous allez faire? Parce que vous avez demandé sa démission. M. Trudeau, lui, ne veut pas. Donc, bon, est-ce qu'on se retrouve donc un peu impuissant? M. Legault a dit, ben, il va y avoir une motion. Alors, ouais. Il y a eu une motion à l'Assemblée nationale, adoptée donc par l'Assemblée nationale après la première période de questions au Salon Bleu. Et ça dit vraiment donc qu'on dénonce les propos tenus par Mme El Gawabi, mais aussi donc surtout que l'Assemblée nationale demande que le gouvernement fédéral mette fin à son mandat de porte-parole. Et les partis politiques ont voté pour. On a vu du côté du PLQ que c'était sans grand enthousiasme. Là.
Ah oui?
Mais parce qu'il y avait...
J'étais pas là, j'ai dû sortir à ce moment-là.
Ouais,
qu'il y a eu un appel nominal? C'est-à-dire, oui. Est-ce que chaque député a
oui,
voté?
Oui, il y a eu un appel nominal, mais en fait, c'est que lorsque Jean-François Roberge a lu le libellé, les gens... sur le parquet, ont applaudi là, les péquistes, les caquistes. Du côté des libéraux, ils applaudissaient pas, là, sauf celui d'Acadie, qui lui applaudissait. mais là, je me disais, bon, est-ce que les libéraux donc vont voter contre? Évidemment, ils ont voté pour. Et c'est les solidaires qui ont voté... ben, en fait, pas qu'ils ont voté
les
contre.
Les QSistes, comme je les appelle.
Ils ont décidé de s'abstenir.
Et
là, ça a provoqué évidemment des moqueries là.
Mais là-dessus, on sent vraiment que et le Parti libéral du Québec et Québec solidaire, ils sont divisés sur
oui.
cette question-là.
Exactement.
Là.
Alors pour les libéraux, là, cafouillage total depuis hier sur cette question-là. Jennifer McCarron qui a fait un tweet, elle disait qu'il fallait soutenir cette nomination-là et faire preuve.
Le gouvernement manquait d'humanité. Oui. C'est pas rien.
Ça, c'est se tirer dans le pied, mais avec gros calibre. Là. quasiment à coup de mitraillette.
Et le tweet a disparu à un moment donné hier après-midi.
Elle a effacé le tweet. Elle s'est même excusée en toute fin de journée. Marc Tanguay, lui, a demandé, dans le fond, aussi des excuses là, donc de Mme El Gawabi. Alors, il a ramené ça. Et du côté de Québec solidaire, quand je dis aussi que ça a marqué la rentrée, c'est que le nouveau député de Maurice Richard, Aaron Boisy, lui a publié un tweet aussi assez incendiaire dans lequel il accuse le gouvernement Legault de faire complètement diversion en utilisant cette question-là et en pointant une femme voilée pour éluder, dans le fond, les problèmes, les autres problèmes là, de la société québécoise. Et Jean-François Roberge a été questionné sur ce tweet-là. Il a dit que Québec solidaire était complètement déconnecté de la population québécoise. Et à juste titre, là, ça je donne ça à M. Roberge, il a dit « Quand on insulte les Québécois, c'est notre responsabilité de les défendre. » Et on peut difficilement être en désaccord sur ce point-là.
C'est ça. Alors, mais en même temps, c'est vrai que ça a pris toute la place.
Ben oui.
Si c'était une diversion, ça a bien fonctionné.
Mais en même temps,
je pense pas que ça en était une.
Mais de toute façon, c'est que ça s'imposait. Je veux dire, je vois mal comment les élus ici de l'Assemblée nationale auraient pu bander les yeux et faire abstraction de ce dossier-là.
Ben oui.
Alors, ben voilà. Donc, c'est la rentrée sous le signe El Gawabi.
Oui, puis le Parti libéral, en tout cas, Marc Tanguay a eu de la misère à expliquer le tweet de sa pour revenir à Jennifer Macaron, là, il a vraiment patiné ce matin. Moi, ce midi, j'ai fait jouer un extra, on n'a pas le temps, là, mais où même lui, il faisait un lapsus très révélateur, presque freudien, où il disait... Il disait, au lieu de parler de Jennifer, il a parlé de Marie-Claude. Oui. Et là, on a tous pensé à Marie-Claude Nichols.
Exactement.
Qui a été expulsée du caucus. Est-ce que c'est ce qui attend Jennifer? Est-ce que c'est ce qui aurait attendu Jennifer si elle n'avait pas retiré son fameux tweet?
Mais et c'était très drôle parce qu'on voulait savoir, est-ce que Mme Macaron, dans le fond, avait eu l'approbation du chef intérimaire ou de l'équipe avant de faire le tweet? Et là, il a comme répondu ni oui ni non en disant que c'est un travail d'équipe incomplet.
C'était tordant. Donc, vraiment, j'avoue.
Donc, qu'est-ce qu'on décode? C'est que quelqu'un devait approuver, il l'a pas fait, elle l'a publié pareil. En tout cas, bon.
Ou l'inverse, où ça a été approuvé.
Exact.
Ils se sont rendus compte de la réaction
que
vraiment.
C'était mauvais.
Le tollé, puis ils ont changé d'idée tout le groupe. En tout cas, c'est l'heure de l'analyse sportive. De quoi? De la période de questions, mon cher Rémi. Et on a assisté au premier affrontement de la session sur la santé. Les libéraux vont vraiment taper sur ce clou-là.
Oui, on le voit. Et ça peut être une période de questions orageuse, là, pas du tout. Et souvent, c'est comme ça. La première période de questions, on dirait que c'est comme des boxeurs qui s'étudient, là, qui commencent à regarder un peu que la posture de l'autre avant de lancer les meilleurs coups. Et,
ou au hockey, tu sais, quand on lance la rondelle dans le fond du territoire adverse.
Pour voir si on est les premiers qui vont aller ramasser.
C'est plate.
Alors, bref, Marc Tanguay a commencé vraiment les hostilités sur le thème de la santé. On est revenu sur le fait que des urgences ont... Ben, l'urgence de Maisonneuve-Rosemont qui avait fermé au cours d'une nuit et d'autres problèmes à l'hôpital Lakeshore, en Outaouais, le temps d'attente sur les civières, etc. Et M. Legault a servi encore comme élément de réponse que c'est comme ça ailleurs aussi, malheureusement, on n'est pas les seuls, la pandémie, etc., etc. M. Tanguay a lu un message qui avait été publié par une infirmière de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et on va écouter donc l'échange qu'il y a eu entre Marc Tanguay et François Legault.
Alors, pour le premier ministre, est-ce que Mélanie Paquette exagère? Est-ce qu'elle est déconnectée de la réalité? Est-ce qu'elle aussi devrait s'abonner aux publications internationales auxquelles fait référence le premier ministre?
Monsieur le premier ministre, pour votre réponse.
Monsieur le président, madame la présidente, je vais m'habituer. je dis pas qu'il n'y a pas de difficulté. Ce que je dis, c'est qu'il faut regarder ce qui se passe ailleurs puis comprendre que la pandémie a frappé partout.
Alors, là, c'est sûr qu'à un moment donné, ça va s'essouffler, là, la capacité de
c'est
cette
ligne-là. C'est pas faux. Ça a été extrêmement dur pour le système, la pandémie, mais à un moment donné, on voudrait qu'il y ait des résultats. On a tellement d'argent dans ce système-là.
Idem pour Christian Dubé, qui encore une fois a plaidé pour regarder le verre à moitié plein ou au quart plein, en fait, plutôt qu'aux trois quarts vides, parce que on lui remettait... sur le nez, les statistiques qui montrent qu'il y a peu d'amélioration là, quand on regarde le tableau de bord, justement, qui a été créé par M. Dubé. Et,
c'est vraiment la mode des tableaux de bord.
Oui, exactement. Oui. Et M. Dubé, lui, a dit, ben oui, mais là, vous regardez qu'est-ce qui va pas bien. Moi, j'essaie de regarder qu'est-ce qui va bien. Bon, ça aussi, c'est, je pense, une ligne qui pourra pas tenir encore très, très longtemps.
La joueuse qui s'enfarge dans ses lacets maintenant.
Oui, alors Sonia Bélanger, la ministre des Aînés, elle a échappé une phrase qui est plutôt malheureuse et c'est la porte-parole de l'opposition officielle en la matière, Linda Caron, qui demandait combien qu'il y avait eu de sanctions à la suite de l'adoption de la loi sur la maltraitance contre les aînés.
Oui. Les sanctions dont on peut perdre notre emploi, on peut être suspendu, il y en a plusieurs là.
Exactement, et Mme Bélanger n'avait pas de réponse. On va écouter ce qu'elle a dit et je vais revenir sur le reste de sa réponse.
Je vous donnerai pas de chiffres aujourd'hui parce que les chiffres ne sont pas importants à ce stade-ci. Ce qui est important, c'est que les commissaires à la qualité aux plaintes dans les différents six CIUSSS et établissements du Québec soit en mesure de traiter ces plaintes et d'accompagner les gens dans le processus.
Alors évidemment qu'on ne pourra jamais dire que les chiffres ne sont pas importants.
Surtout pas d'un gouvernement qui est obsédé par les statistiques,
oui. Hein,
qui fait des tableaux de bord partout. Comment ça les chiffres ne sont pas importants? C'est quoi ça?
C'est surtout que là, Mme Caron a dit, si vous répondez ça, c'est parce qu'il n'y en a pas eu de sanctions, donc ça veut dire que ça marche pas votre affaire.
Oui.
Et bon, on a...
Elle a dit... Sonia Bélanger, qui avait eu des sanctions.
Exactement.
Mais elle n'était pas en mesure de dire combien.
C'est ça. À ça, donc, elle a dû au moins s'avancer et dire oui, il y en a eu. Elle a dit ça peut être des sanctions administratives, mais elle n'avait pas de chiffres. Je pense que la prochaine fois, elle devrait juste dire je n'ai pas de chiffres précis à l'heure où on se parle, mais pas dire que les chiffres sont pas importants parce que c'est sûr que ça permettra de voir si on donne un suivi efficace parce que c'est ça le but là. Dans
ben
le
oui.
Fond. Il y a beau avoir.
Quelle est la devise de Christian Dubé? Ce qui se mesure s'améliore.
Exactement, parce que là sinon. On a beau dire bravo, on est en mesure de voir avec l'obligation de porter plainte et le nombre de plaintes qu'il y a matière à intervenir. Mais si on n'intervient pas ou qu'on n'a pas de résultat, ça avance à rien. Alors voilà pour Mme Bélanger.
Très bien, mais merci beaucoup Rémi. Puis on reprend ça demain avec une autre analyse sportive de la période de
questions. Et puis rapidement,
oui?
C'est très drôle. Paul Saint-Pierre Plamondon était ému de rentrer au Salon
Bleu. Oui.
Alors pour la première fois, même s'il n'a pas prêté serment, sauf qu'il n'y a pas eu de questions aujourd'hui. Donc
non, il est intervenu sur la motion, par contre,
oui.
Sur la tuerie à la mosquée.
Oui, exact.
Mais il n'y a pas eu. C'était sa première intervention de l'histoire. Là. Il était très content.
C'est ça. Mais pas encore de questions. Donc j'imagine que ce sera mercredi demain.
On a hâte.
Ouais.
Ça fait de la variété. Merci beaucoup Rémi encore une fois.
Lui doit avoir hâte.
Oui, lui aussi. Hein. À demain.
À demain.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Vous écoutez là-haut sur la colline.
C'est mardi, jour des actualités de l'histoire.
Les actualités de l'histoire. Avec Dave Noël et Antoine Robitaille.
Et bonjour Dave Noël.
Bonjour Antoine.
Dave Noël, c'est notre chroniqueur d'histoire et accessoirement journaliste au Devoir, auteur entre autres de Montcalm, général américain. Il est avec nous souvent, on espère toutes les semaines. Il est très occupé, Dave, mais il va revenir souvent les mardis parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique. Et on commence aujourd'hui par parler d'une controverse très chaude, une controverse en histoire autour de la naissance ou de la création du drapeau québécois. C'est une controverse entre l'historien Frédéric Bastien et l'historien Alexandre Dumas, mais il y a aussi, c'est ajouté dans les dernières heures, un autre texte. Raconte-nous ça, Dave.
Oui, nous sommes vraiment dans l'actualité avec la lettre qui vient d'être publiée.
L'actualité de l'histoire.
En ligne, tout à fait. Donc, tout ça part du 21 janvier dernier. On commémorait le 75e anniversaire de l'adoption du Fleur-de-Lysée par Maurice Duplessis en 1948. Et évidemment, ce jour-là, il y a eu beaucoup de textes anniversaire, rappelant comment ça s'est fait, un rappel. Et le chroniqueur du Journal de Montréal et du Journal de Québec, Frédéric Bastien, a publié un texte dans lequel il rapportait les souvenirs d'Antonio Flamand.
Oui.
Antonio Flamand, c'est un ancien député de l'Union nationale. Il a été élu pour la première fois en 1966, qui est un détail important.
Oui.
Et lui, dans ce texte-là, il se confie à Frédéric Bastien. Il raconte une histoire un peu complexe d'un grand complot, selon sa version des faits, Maurice Duplessis.
Un complot entourant le drapeau du Québec.
Oui, une histoire compliquée, un peu pour rien, si on veut, parce que, selon la version d'Antonio Flamand, Maurice Duplessis aurait demandé à son trésorier, Gérald Martineau, de rembourser, de payer les dettes d'un député indépendant qui s'appelait René Chaloux,
oui.
pour forcer René Chaloux à faire pression sur Duplessis, le premier ministre, pour qu'il adopte le Fleur-de-Lysée. Sous prétexte que l'adoption du Fleur-de-Lysée, si ça avait été trop rapide, les anglophones auraient mal réagi.
C'était pour ménager les sensibilités des anglophones.
Donc, on parle d'une espèce de comédie dans laquelle auraient joué Maurice Duplessis et René Chaloux, qui de l'autre côté du Salon Vert, anciennement le Salon Bleu était vert. Donc, il aurait manipulé Chaloux pour se forcer lui-même à adopter le drapeau. Donc, c'est un peu ça l'histoire.
Ouais.
C'est un détour compliqué. En fait, ce qu'on sait, c'est que la version officielle, c'est que René Chaloux, donc, lui, s'est fait un peu le porte-étendard, littéralement, de ce projet-là. Il faut savoir que le Fleur-de-Lysée...
Porte-drapeau,
tout à fait. Il faut savoir que le Fleur-de-Lysée ne date pas de 1948. Il a été créé en 1902 par un abbé, l'abbé Filiatro, et il s'est diffusé...
C'était un clin d'œil au fameux drapeau de Carillon, de la bataille de Carillon, la dernière que Montcalm a gagnée, si je ne m'abuse.
On peut en parler, mais il y en a une autre après.
Quand on parle de Montcalm, c'est toujours compliqué avec toi.
C'est toujours compliqué, mais en fait, ce drapeau-là t'a inspiré d'une bannière du 18e siècle qui aurait flotté à la bataille de Carillon. En 1902, on crée un nouveau drapeau, et ce drapeau-là se diffuse dans la société. Et ce drapeau-là est porté par les sociétés Saint-Jean-Baptiste, les jeunes Laurentiens, l'ordre secret de Jacques Cartier. L'abbé Lionel Groulx publie des brochures sur le Fleur-de-Lysée. Il faut l'adopter comme drapeau du Québec. Donc, c'est vraiment un mouvement important de fond.
Oui.
René Chaloux, lui, n'est qu'un député indépendant qui, oui, certes, parle beaucoup, dépose des motions, mais c'est seulement un élément de l'histoire. Donc, parler d'un grand complot, ça supposerait aussi que la société civile aurait été manipulée, mais quoi? Donc, en général, en histoire, c'est souvent... Quand on voit que ça devient compliqué, c'est que la théorie peut-être un peu plus faible.
Oui.
Il y a peut-être des choses qui se sont mélangées.
Donc, c'est Frédéric Bastien qui raconte ça dans les pages du Journal de Montréal, Journal de Québec, dans notre section histoire.
Il présente la version des faits d'Antonio Flamand, donc,
c'est ça.
Qui lui dit qu'il a bien connu Gérald Martineau, donc le trésorier de l'Union nationale, qui est décédé en 1968. Et malheureusement, c'est ça. Donc, la version des faits qu'on a de la part de M. Flamand est une version de seconde main. Donc, c'est le témoignage de Martineau.
C'est du oui-dire.
C'est du oui-dire. Évidemment, puis j'en parle aujourd'hui parce que Alexandre Dumas, donc l'historien, a publié la semaine dernière une réplique à Frédéric Bastien dans laquelle il rappelle que Gérald Martineau et l'Union nationale avaient amorcé une campagne de dénigrement aux dépens de René Chaloux pour différentes questions de politique. Parce que René Chaloux, à l'origine, c'est un député de l'Union nationale. Il vire capot, il devient indépendant. À ce moment-là, il devient un peu l'ennemi. Dès 1937, l'Union nationale laisse planer des rumeurs sur des honoraires qu'il aurait réclamés. Donc, on voit que ça remonte à loin, cette histoire-là. Et il explique aussi, Dumas, que René Chaloux, dès 1936, il était, dès le premier mandat, donc, il défendait l'idée du Fleur-de-Lysée. Donc, penser que... disons que c'est la réalité, souvent...
Puis Alexandre Dumas s'est plongé dans cette histoire-là, dans son livre. C'est drôle parce qu'il s'appelle Alexandre Dumas, puis il a écrit un livre d'histoire du Québec qui s'intitule « Les quatre mousquetaires ».
Donc, lui s'est intéressé à quatre députés avant-gardistes des années 30, dont René Chaloux est l'un d'eux.
Ouais.
Et aujourd'hui, Antonio Flamand a publié une réplique.
Aujourd'hui
même, en ligne. Une réplique à Alexandre Dumas dans laquelle... Sur le site du Devoir, dans laquelle il dit « J'ai vu le chèque de 30 000 $ que Martineau a fait à Chaloux pour qu'il fasse pression sur Duplessis pour adopter le drapeau. » Donc, il y a beaucoup d'éléments dans cette histoire-là. Et c'est sûr que chacun a sa vision des choses, mais on parle d'une histoire qui est basée sur une source unique, sur des souvenirs qui remontent à très loin. M. Flamand n'était pas là en 1948.
Ben non.
Lors de l'adoption, donc...
Parce qu'il a été député, on le rappelle, dans les années 60, alors que l'adoption du drapeau, ça s'est fait en 1948.
Beaucoup plus tard, et on peut concevoir très bien que Martineau lui a confié toutes sortes de choses. Moi-même, quand j'ai parlé à des anciens, des contemporains de Martineau, j'entendais des histoires, des vertes et des pommures que... C'est ça, faut vraiment, évidemment, faire attention à ça.
Lui-même disait souvent hein, qu'il avait réglé des dettes parce que c'était un peu le financier du parti. C'était le financier du parti, un peu le maître des magouilles, si je puis dire.
D'ailleurs, la série documentaire sur Duplessis qui était diffusée dans les années 70, la série de Arcan, mettait beaucoup ça en lumière. Martineau était joué par Donald Pilon, puis là, il beurre épais, comme on dit. Et c'est ça, donc... En histoire, c'est comme un journaliste, il faut souvent contrôler la source, en trouver une deuxième pour appuyer.
Oui.
Évidemment, idéalement, il faudrait voir la preuve qui a été vue par M. Flamand à l'époque et aussi établir s'il y a un lien réel entre ce chèque-là et la démarche de Chaloux. Je veux dire, c'est tout ça forme une espèce de magma. La mémoire, ça évolue avec le temps.
Oui, c'est beaucoup comme ça que ça se fait aussi, l'histoire, à travers toutes sortes d'histoires, de contre-histoires.
C'est pour ça qu'il y a la méthode aussi. Il faut faire attention au contrôle des sources. Donc, c'est un élément qui est intéressant parce qu'on voit ressurgir Gérald Martineau et ses affirmations, donc des années plus tard, 50 ans plus tard même.
Donc, il y a le texte de Frédéric Bastien qui est contredit par Alexandre Dumas dans les pages du Devoir. Puis là, il y a Antonio Flamand qui réplique à Alexandre Dumas. Oui. Mais dans le texte initial, il y avait comme des problèmes, selon toi.
Oui, bien évidemment, c'est ça. C'est un dossier complexe. Il faut savoir aussi que l'adoption du drapeau s'est fait un peu en catimini, derrière les portes closes au Conseil des ministres par un simple arrêté ministériel. Donc, ça s'est fait très rapidement. On n'a pas de rapport sur le déroulement de tout ça. C'est la mémoire orale versus la mémoire orale de la tradition orale de d'autres personnes.
Ah
donc, il faut faire très attention. Et
puis on a un extrait qu'on va jouer tout à l'heure là, de la série Duplessis où on voit Duplessis qui présente carrément le drapeau en chambre alors qu'il flotte déjà sur la tour centrale.
Et c'est ça. Puis aussi un élément intéressant, c'est l'historien Robert Rumilly, qui est le biographe de Duplessis. Je suis tombé sur un article de 1963 qu'il avait publié dans Le Devoir où il reconnaissait lui-même que Duplessis était timide un peu envers le drapeau, qu'il hésitait. Et André Laurendeau aussi, qui était le chef du bloc populaire à l'époque, d'un collègue de Chaloux, du même côté de la chambre.
On est dans l'édifice André Laurendeau ici.
Voilà. Ben lui-même, il en a parlé, la timidité de Duplessis.
C'est
entendu. C'est le seul témoignage qui va à l'encontre de ça, c'est celui de M. Flamand.
Oui.
Donc, qui n'est pas appuyé, qui est seulement son souvenir d'une conversation avec un témoin rapporté au moins une quinzaine d'années après l'événement.
Oui.
Donc, c'est vraiment des... est-ce que c'est intéressant au point d'en faire un texte?
En tout cas, ça lance un débat intéressant quand même. L'histoire est faite de ce type de débat-là. Puis, on va écouter Jean Lapointe, qui imitait, qui jouait, qui incarnait, parce qu'imiter, c'est un peu trop, mais qui incarnait Maurice Duplessis dans la série de Denis Arcand des années 70, je pense, à la fin des années 70. Oui, oui. Alors, on l'écoute.
Messieurs, la province de Québec a maintenant son drapeau. Un drapeau à croix blanche sur champ azur et avec lisse. Et au moment où je vous parle, il flotte déjà sur la tour de notre Parlement.
Alors, c'est les cloches de la tour centrale du Parlement qu'on entend, Dave. C'était, on le rappelle, dans le documentaire... Dans la série documentaire sur Duplessis.
Oui.
En fait, c'est pas de documentaire.
C'est une série de fiction, évidemment.
Mais c'est tellement... On dirait que ça préempte
la
réalité.
C'est de, parce qu'à défaut d'archives, on se tourne toujours vers ces images-là et ces extraits-là. Et c'était la séance du 21 janvier 48 à 3h quand Duplessis annonce que le fleur-de-lysée flottait déjà sur le Parlement.
C'était les actualités de l'histoire, très actuelles. Merci beaucoup, Dave. Puis on espère te recevoir souvent pendant cet hiver, ce printemps prochain. À la haut sur la colline. Et c'est ainsi que se termine La haut sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.
Cube Radio.